L'Algérie des camps. Une enquête à travers l'histoire des camps de regroupement et leurs conséquences jusqu'à aujourd'hui. J'ai une sensation d'effacement. J'en ai même rêvé, c'était blanc. Je cherche les mondes qui ont disparu à la suite des regroupements. Je ne suis pas la seule à chercher. En France, en Algérie, ailleurs dans le monde, nous sommes nombreux à nous interroger sur notre histoire, celle de nos pères, de nos mères, de nos parents, anciens colonisés, marqués à vif et plongés dans le silence. Nous sommes nombreux à nous interroger et à faire face à un vide de transmission. Nous sommes nombreux à nous interroger et à tomber sur des identités figées, mythifiées. À l'image de l'Algérie post-indépendante, en Algérie, nous serions tous arabes et musulmans. C'est d'ailleurs ainsi que j'ai commencé à apprendre l'arabe, pour découvrir 10 ans plus tard que la langue de mon père n'était pas l'arabe, mais le kabyle, le tamazirt. Je continue à chercher comme Nabil, Lina, Jamel, Walid, Salma, Amina. Ils sont comme moi en quête de mémoire. Nous sommes une génération avide de mémoire. Toute photo du monde perdu, trésor arraché à des archives personnelles, est partagée et commentée sur les réseaux sociaux. La parole des regroupés est si rare et si pudique. Amina Mekahli, écrivaine algérienne, me le confie. Je l'ai rencontrée à Oran, la 2e plus grande ville d'Algérie. Dans son dernier roman, Nomade brûlant, tissé des souvenirs des populations nomades, Amina Mekahli compte l'histoire d'un enfant regroupé dans un camp.
Il y a une forme de pudeur à raconter cette descente aux enfers, cette déshumanisation. Et je pense qu'ils ne veulent pas en parler parce que c'est gênant. Je me souviens des personnes qui se sont confiées à moi, tu vois. Tout le temps. Et je déplore le fait que... C'est pour ça que je te dis, ce sujet me tient à cœur, parce que je me dis, personne n'en parle. Ces gens-là, personne ne les a écoutés, personne ne les a... Quand tu entends des adultes décrire l'enfant qu'ils ont été, l'enfant qui a eu faim, alors que c'est des familles qui étaient aisées, qui avaient leur bétail et qui ont été dépossédées.
Pendant la guerre, le nombre de nomades en Algérie était encore conséquent. Près de 600 000 personnes. Très affectés par les regroupements, interdits de circuler sans laisser passer, ils auraient perdu la majorité de leurs troupeaux. Amina romance ce monde perdu.
Tu ne sais pas. Et tu ne sauras jamais ce que veut dire un nomade. Tu ne pourras jamais comprendre l'amour des bêtes et de la liberté. Nous sommes des marcheurs nés. Nous sommes des déménageurs. C'est pour cela qu'on nous appelle les rahala, qui déménagent sans cesse jusqu'à leur mort. Nous ne connaissons ni frontières, ni racines. Nous ne connaissons ni la faim, ni la soif. La marche est notre eau et notre nourriture. Nous connaissons toutes les bonnes terres et tous les points d'eau. Nous connaissons les saisons et les couleurs du ciel. Nous sentons le vent venir et entendons la pluie de loin. Nos sens sont devenus aussi aiguisés que les sens de nos bêtes. Cette maison est une prison, ne l'oublie jamais.
Amina me parle du monde des nomades des hauts plateaux dans le sud oranais. Et mon père, pudique sur l'histoire des regroupements, me raconte avec émerveillement la vie du village.
Ce qu'on a perdu un peu, malheureusement, c'est les fêtes collectives. Il y avait beaucoup de fêtes collectives, par exemple, la fin des récoltes de blé, de printemps, par exemple, à la fin de l'hiver. Les gens ont tellement souffert de mauvais temps, de l'enfermement, etc. Dès qu'il y a un peu de lumière, les gens sortent. Et je me rappelle d'une fête qu'on fêtait à Mansoura. On amenait avec nos mères et beaucoup de femmes surtout, on amenait les enfants et on les faisait sortir à côté du village. Et on monte sur la montagne, on amène les gâteaux, les boissons, le café, le thé, etc. On passe une journée à l'air pur. Et puis, on nous dit, bon, maintenant il faut ramener le soleil. Mettez-le dans les petits couffins. On mettait le soleil dans les petits couffins, on était tout contents. Moi, je croyais vraiment que j'avais le soleil dans mon couffin. C'était magnifique. Ça, c'est des rituels païens, à mon avis, qui sont restés, hein, parce que c'est en fait le soleil, en fait les solstices. par exemple, la fin des récoltes de blé, d'orge. Enfin, moi, je suis issu d'une région des steppes. On cultive le blé et l'orge. Et puis, donc, lorsqu'on a fait les récoltes, bon, on fait ça, une fête des familles, on fait les mariages, on fait les circoncisions, on fait tout ce qui est un peu les rituels qui sont restés, hein, avec des chants, de la musique. Bon, c'est magnifique.
Je découvre dans le récit de mon père un imaginaire proche de la nature. Je sens qu'il a du mal à traduire tout ce monde disparu. Je pars à Mansoura, seule cette fois. J'ai été invitée à un mariage par des femmes, descendantes de populations regroupées à Mansoura. Elles sont fières de m'habiller avec cette robe blanche, brodée, recouverte de tissus jaunes, rouges et verts. Cette robe ferait sourire mon père. Il y verrait sans doute du folklore, une forme de nostalgie pour un monde qui n'est plus. Au mariage, elle me présente comme la Gaouria, l'européenne, pour que je puisse aller à la cérémonie du côté des hommes.
Je parle pas.
Tu peux expliquer un petit peu?
Alors expliquez.
C'est une ancienne tradition dans les mariages kabyles.
D'Aris. Le fiancé?
Le henna.
Le henna. Et dire le baroud. C'est comme ça. C'est une tradition pour nous.
Pour annoncer le mariage en fait. Au reste du village.
Oui, c'est une tradition de village.
Parce que mon père, il m'a raconté que quand il est né,
oui.
Son père, il a tiré pareil, comme ça, trois coups.
C'est ça.
À l'origine, le henné était appliqué sur la main du fiancé. Il apportait protection et éloignait les esprits maléfiques. Je me demande si le sens de ces rituels a changé. De retour à Paris, je reprends contact avec Slimane Zeridour, journaliste et écrivain, auteur du livre « Sors, la route t'attend ». Il y relate son expérience dans le camp de regroupement d'Eraguen, en Kabylie, où il a vécu à partir de 1957. Il avait 4 ans quand il a été regroupé pendant la guerre. Il a fait un rare travail de mémoire sur cet événement.
J'ai réalisé pleinement, en écrivant le livre, que le monde dans lequel j'ai grandi au village a été totalement détruit par la guerre. L'arrivée dans le camp, c'est, moi je pense, la chose la plus importante. Maintenant, avec le recul, c'est l'adulte qui parle, c'est la découverte de l'économie de marché. C'est-à-dire, nous ne produisons plus rien de ce que nous consommons. Dans le village, nous avions du beurre, du lait, du petit lait, de l'orge, des figues séchées, des oignons séchés, de l'ail. Nous achetions seulement le café, le sucre, l'huile et le pétrole pour la lampe. Avec les allumettes. C'est tout ce qu'on achetait. Nous achetions la semoule, le pain. Au village, nous fabriquions les ustensiles, cuillères en bois, assiettes et marmites en argile. Là, on achète en aluminium, en plastique. Nous tissions des burnous et des djellabas. C'est fini. Nous achetons des pantalons, des t-shirts, des chemises. Les traditions vestimentaires ont disparu. Quand on regarde les photos de l'époque, c'était des photos, les vêtements étaient hyper colorés, bariolés, on se croirait. Je n'ai vu ça qu'en Moldavie ou en Asie centrale. Le côté, les couleurs éclatantes. Nous découvrons d'autres trucs de consommation, la limonade. Pour se couper les cheveux, il faut aller chez le coiffeur. Ce n'est plus nous-mêmes qui le faisions. Quand on tombe malade, on va chez le médecin, on ne va plus chez le marabout où on crève de non-traitement. C'est ça le chambardement. C'est l'entrée à coups de pied dans l'économie de marché, donc dans la modernité. Du coup, notre propre univers était totalement disqualifié face à cela. C'est un peu comme dans le film de Fellini, Roma, quand les ouvriers creusent dans un tunnel pour le métro de Rome, à un moment donné, les projecteurs de l'excavatrice tombent sur un mur où il y a une fresque qui date de l'époque romaine. Une fresque où on voit des personnages. Mais la fresque ne résiste pas à la lumière et elle se dissout comme ça. On voit les personnages s'effacer, s'estomper et disparaître. Voilà, la modernité, par sa simple présence, disqualifie et estompe le passé. C'est ce qui s'est passé aussi chez nous. Le propre des villages de ma région, donc de la petite Kabylie, c'est qu'il n'y a pas de village pluriclanique. Chez nous, mon village, c'est seulement les Eguidour et rien d'autre que les Eguidour. En face, c'est les Benskaïm et rien d'autre que les Benskaïm. Plus au nord, c'est les Fédrouches et rien d'autre que les Fédrouches. Donc il y a un sentiment de cohésion, de propriété du sol qui est extraordinaire. Je veux dire, les femmes sortent, vont faire du bois, parce qu'il n'y a pas d'étranger qui peut les voir. Donc elles sont dévoilées, les cheveux au vent, avec les khalkhal qui font du bruit en marchant. Les khalkhal, c'est des bracelets de pied. C'est comme une grande maison sans mur. On voyait de temps en temps un étranger, c'est-à-dire un type du village d'en face, qui traverse, et alors il traverse en rasant les murs, à peine s'il salue de loin. Il ne s'arrête pas parce qu'il n'a rien à faire. Passer, circuler, il n'y a rien à faire. Très peu de mariages entre ces différents clans, la cousine germaine étant l'épouse idéale. Donc ce village, la seule histoire qu'il a, c'est l'histoire de la famille. Il n'y a pas d'autre histoire. C'est l'histoire de la famille, même pas l'histoire de la famille en interaction avec d'autres clans. C'est seulement nos ancêtres. Donc il y a les légendes sur notre ancêtre, Sidi Ali Warzeddini, qui a son marabout. Moi, quand j'étais petit, je ne savais même pas qu'il y avait Allah. Mes parents le savaient, mais moi, quand je priais Sidi Ali, je l'imaginais avec un burnous blanc, une barbe blanche, parce que l'expression, c'est de dire « Sidi Ali, jette un pan de ton burnous sur moi pour vous protéger. » Les charades, les devinettes, les boutades, les proverbes, les calembours, tout ça a disparu. Nous avons gagné notre indépendance et perdu notre patrie. Nous avons gagné un État et nous avons perdu un pays, c'est-à-dire un patrimoine culturel immense dans l'indifférence générale.
Peut-on ressusciter ce monde disparu ? Je rêve d'un retour sur les terres de mon grand-père, replanter des oliviers et des figuiers. Mais peut-on réparer ce qui a été perdu ? Que sont devenus ces milliers de villages perdus que des millions de paysans avaient dû quitter dans la précipitation, contraints de fuir leurs terres et avec elles la protection des esprits de leurs ancêtres? Souvent, le retour n'a pas eu lieu. Pourtant, quand on regarde des photos anciennes, certains paysages sont d'une incroyable beauté. C'est le cas de la région berbère des Chaouis de l'Aurès, au nord-est de l'Algérie. Le village de Roufi, accroché à une falaise de pierre, surplombe une oasis d'arbres fruitiers et de palmiers traversés par la rivière. Des habitats troglodytes sont même taillés en escalier dans la roche. En 2002, l'Algérie a proposé d'inscrire les gorges du Roufi sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le journal de la chaîne publique Canal Algérie en a même fait un reportage élogieux.
L'Algérie regorge de trésors. Les Balkans de Roufi en état. Non, vous ne rêvez pas, vous êtes bien dans les Aurès et non en train d'admirer le Grand Canyon. C'est bien dans la wilaya de Betna que se situe ce site touristique. Un site taillé en cascade sur la roche. L'ingéniosité humaine a réussi à créer des habitations datant de 4 siècles.
Le reportage ne parle pas du départ précipité de ses habitants et fait l'impasse sur cette histoire. Pour ma part, j'ai découvert ce village à Paris. C'est Sawsa Nouer, architecte égyptienne, qui m'en a parlé. À la fin des années 70, elle vivait en Algérie et enseignait à l'université de Constantine dans les Aurès. À l'occasion d'une visite du village de Roufi, touchée par la beauté des lieux, elle rêve de le reconstruire et de permettre aux anciens paysans de retourner sur place. Elle veut mettre ses compétences au service de l'Algérie nouvelle, comme ses coopérants, venus de France, surnommés les Pieds Rouges, proches des idées marxistes et du tiers-mondisme. Saoussane imagine reconstruire ce village patrimoine historique. Elle me montre des photos qu'elle a prises à l'époque.
Regarde cette photo, il est superbe, parce qu'on voit les escaliers de la montagne. Attends, c'est vraiment les deux villages qu'on a visités, et en 78, qui sont Roufi et Mana. Mana était un peu plus habité que Roufi, qui était complètement abandonné. Et les villages sont construits sur les flancs de montagne, à peu près 700 mètres d'altitude. Certaines maisons, elles sont troglodytes, tu vois, donc une partie dans la montagne. Sinon, la construction est faite avec des pierres de la montagne, soit brutes, soit légèrement taillées, et avec des mortiers naturels, et des toits en bois, des palmiers ou des arbres. Et c'est ça qui m'avait attiré énormément quand j'étais à Constantine. Et je disais, mais pourquoi ces maisons, on les laisse comme ça ? Il faut absolument les réhabiliter, faire un projet avec mes étudiants et pour faire venir les habitants qui habitaient ici avant les déplacements. Et donc avec les étudiants, on avait formé un atelier et l'idée c'était d'aller à Batna, de voir les anciens habitants, de discuter avec eux pour qu'eux aussi participent dans la réhabilitation de leur maison. Alors, on avait fait un rapide investigation et bien sûr, les gens voulaient rentrer parce qu'il y avait là leur jardin en bas et qu'ils pouvaient cultiver, etc. Or, à Batna, ils ne sentaient pas chez eux, surtout dans une sorte de baraquement, des camps comme ça, qui est tout petit. Or, ils étaient entièrement dans la nature, en fait. Ils vivaient dans un paysage et dans un environnement de rêve, quoi. Et là, ils étaient casés, quoi, dans des cases. Et donc, on avait même discuté avec l'Ouali de Batna à l'époque, qui était très content de faire le projet de réhabilitation, etc. Donc, il nous a dit qu'il allait nous envoyer un bus pour nous chercher de Constantine jusqu'à Batna. Et les jours des départs, les matins, l'autobus était là. Il nous attendait à l'Institut d'architecture. Et il y a des gens qui sont venus, qui ne se sont pas présentés, mais on peut imaginer d'où ils venaient. Ils m'ont dit, votre voyage a été annulé. Vous ne pouvez plus partir. Voilà, et c'est comme ça. D'abord, on ne m'a pas signé mon contrat. Et quand je suis montée jusqu'au ministère, j'ai trouvé par l'intermédiaire des amis qui étaient au ministère, etc. J'ai trouvé que sur mon dossier était marqué « barré en rouge, personne non grata ».
Et d'après toi, pourquoi en fait ils ont refusé que tu réhabilites ces villages qui sont de l'ordre du patrimoine historique pour l'Algérie ?
Je pense que c'est parce que ça posait la question, au fond, à partir d'un moment où on va voir les gens qui habitent à Batna dans les camps de regroupement jusqu'à maintenant, donc ça veut dire 18 ans après, ça posait la question de toucher à quelque chose qui était presque un tabou pour le pouvoir sur place. On était à l'époque des Boumédiennes. Donc, ça pointe, effectivement, le fait qu'il continue à faire une politique qu'on peut comparer à une politique coloniale, des regroupements. D'où le projet, encore une fois, des villages socialistes. De regrouper des gens au lieu de leur laisser développer leur habitat naturel en essayant de les aider, de développer leur petit hameau. Les gens savent construire, on le voit. Ça, c'est pas construit par des architectes. Ça, c'est construit par les gens selon leurs besoins et selon les matériaux existants. Et donc, ça coûte forcément nettement moins cher qu'un projet architecture où on fait des bétons armés et on ramène ça, etc., et qui s'est inadapté au climat. Et donc, tu poses tout de suite la question, mais pourquoi ? Pourquoi regrouper les gens ? Donc, effectivement, l'idée principale, c'est comment contrôler la population et comment ne pas leur laisser libre de vivre et de penser. Voilà.
On dit qu'il est déshonorant d'abandonner la terre de ses ancêtres. J'ai moi aussi besoin de retrouver une place, une mémoire, une filiation. Et qui sait, peut-être moi aussi replanter des oliviers et des figuiers dans les champs abandonnés de mon grand-père. Mais ce lien arraché n'est-il pas de l'ordre de l'irréparable ? Je pose la question à Ben Hassan. Cet ancien professeur d'arabe et historien local vit à Mansoura, village natal de mon père. Grand, très réservé, il me témoigne pourtant de vraies marques d'affection. Sans doute car je partage comme lui ce désir de vérité sur l'histoire. Il a été regroupé à Mansoura à l'âge de 6 mois. Il est travaillé par la question des regroupements et continue d'y réfléchir. Dans le Mansoura d'aujourd'hui, les sentiments d'hostilité entre tribus regroupées perdurent.
Notre vie à Mansoura en tant que villageois venu d'une autre tribu qui s'appelle Tiziqlaa n'a pas été tout le temps une belle vie. Pendant les années 60 et les années 70, on se sentait comme étrangers sur ces lieux à cause des mauvaises relations entre tribus qui ne sont séparées que par quelques kilomètres. Entre le Hamra, par exemple, et Ouled Aïcha, il n'y a pas plus de 7-4 kilomètres. Mais le courant ne passe pas jusqu'à aujourd'hui. Donc personnellement, ou comme père de famille, j'ai toujours dans la mémoire qu'en tant qu'Algérien, je ne vis pas sur la terre qui me revient de droit à 100%. Il est vrai qu'à partir des années 90, les choses ont un peu changé vers le mieux. Mais il y a toujours, à l'occasion des élections locales, par exemple, le seul critère que les gens appliquent, c'est le critère tribal. Les gens se scandent ici à Mansoura, en deux rangs, Hamraoui et Mziti.
Ben Hassan se rend souvent à Tiziqlaa, son village natal. Il retrouve sa place parmi ses ancêtres, le temps de cultiver sa terre. On devine encore la mosquée, la place où se trouvait la Djama, l'assemblée populaire villageoise, les champs d'oliviers et les figuiers autrefois cultivés. Ben Hassan essaie aujourd'hui de reconstruire la maison de ses ancêtres et de replanter des arbres. Mais il est conscient que son village est mort, impossible à faire revivre. Ah ouais, il y a beaucoup de vent, ouais.
Village rasé par l'aviation française à partir de 1956. Depuis lors, il a été laissé par ses habitants.
Mais vous, vous revenez pour vos récoltes alors ?
Moi, je suis un résistant. Avec mon ami Yassine, qui est un éleveur ovin.
Et il vit toujours ici ?
Non, juste pour faire paître son troupeau. Hey, allez, allez.
Et votre maison, elle était où ?
Elle était de ce côté-là.
C'est un grand village quand même.
Oui, il y avait 150 habitants en 1898.
Il a reconstruit une maison en fait.
Oui, avec des moyens du bord. Là, on est sur la crête, hein, sur le sommet de la crête. Voilà le ravin que je vous ai dit.
Et lui, c'est un descendant d'habitants de Tizir Qala ?
Oui, oui. Son grand-père est toujours en vie. C'est un moujahid.
Il est le seul, en fait, à réinvestir le village.
Si, il y a son père qui est en face, dans les maisons là-bas, en face. C'est des gens qui préfèrent la tranquillité à n'importe quel prix. Yassine n'accepterait jamais de travailler chez quelqu'un qui t'a subi mille misères. C'est l'esprit amazigh. C'est l'homme libre. La récolte, ce sera pour le mois de mai. Voilà, tout ça, c'est un travail manuel.
Il y a quelques oliviers ou c'est des amandiers ?
Où ça ?
Là, ces arbres-là.
Non, c'est des arbres sauvages. En arabe, ça s'appelle le bouton. En kabyle, ça s'appelle... J'ai oublié.
Mais ça fait seulement 8 ans que vous êtes remis à la terre.
Mais je n'ai jamais quitté la terre définitivement. Malgré mon métier comme enseignant ou inspecteur, je gardais toujours le contact. C'est moi qui venais récolter des figues berbères.
Il y a beaucoup de gens qui veulent revenir à la terre, mais qui sont trop coupés.
Trop coupés, puis ils ne peuvent plus supporter la vie rude de ces régions-là. C'est une vie rude, vraiment rude. Personnellement, est-ce que je pourrais revivre ce qu'a vécu mon père ici au village ? Je ne pourrais jamais.
Moi, je pourrais apprendre facilement ou c'est un peu compliqué ?
C'est pas compliqué, c'est dur. C'est des travaux qui demandent de la force physique, de la résistance. Oui, il y a le train là-bas, tu vois ? En dessous de la brique, il y a un train.
Oui.
Il y a un train coupé comme ça. C'est un abricotier que j'ai récupéré de Mansoura. Je l'ai ramené avec ses racines et je l'ai mis là. Depuis quelques jours seulement.
Mais peut-être qu'il pourrait donner des fruits, même s'il a été déraciné.
Oui, il va reprendre, oui.
C'est à l'image de cette histoire.
Oui, c'est à l'image de cette histoire, c'est ça.
Je constate la destruction matérielle et la perte symbolique. Le retour individuel ne recrée pas un monde. Je suis face à l'irréparable. Que se passe-t-il quand on lègue des ruines aux générations suivantes ? Porte pour aller au mausolée en fait.
Il a été profané.
Ah, c'est qui l'a profané ?
C'est le salafiste.
Et c'était quand ? C'était dans les années 90 ?
90.
Je quitte Tizir Qala avec l'image de ce mausolée profané, vestige d'un islam maghrébin marqué par le culte des saints musulmans. Cette image choquante me projette dans les années 90, une décennie de guerre civile. En 1991, le Front islamique du Salut était donné gagnant aux premières élections législatives multipartites de l'histoire de l'Algérie. Mais le gouvernement annula le processus électoral par crainte de voir les islamistes accéder au pouvoir. L'Algérie bascula dans une guerre opposant les islamistes armés à l'État algérien, causant la mort de près de 200 000 personnes. Parmi ces islamistes engagés dans une lutte armée contre l'État, il y a le GIA, le groupe islamique armé. Il s'est imposé dans la plaine de la Mitidja, plaine agricole, zone la plus peuplée d'Algérie, de près de 1400 km². C'est dans cette zone, surnommée Triangle de la Mort pendant la décennie noire, qu'ont eu lieu des massacres de civils attribués aux terroristes du GIA. C'est aussi dans cette région que l'armée française regroupa massivement pendant la guerre et que l'expérience des villages socialistes fut importante. Je me demande s'il y a un lien entre regroupement de population, déstructuration profonde de l'identité paysanne et montée du terrorisme. Je rencontre à Alger un chercheur spécialiste du sujet qui étudie l'idéologie salafiste djihadiste revendiquée par le GIA et ses émirs, les dirigeants locaux du groupe. Leur but était d'éradiquer l'ordre politique et social en place et de faire advenir par la violence un califat islamique. Ce système politique transnational, fondé par les disciples du prophète, qui a organisé la communauté musulmane pendant près de 13 siècles. Je lui fais part de mes questionnements.
On retrouve, par exemple, là, je prends un exemple très concret, parce que c'est une question très, très sensible. L'exemple de la Mitidja, qui est quand même le fief de tous les émirs, de tous les chefs du GIA de 1989 jusqu'en 2004. Quand on voit les implantations les plus importantes du salafisme djihadiste en Mitidja durant les années 90-2000, c'est dans les villages, d'anciens villages agricoles socialistes devenus des quartiers du recasement et de l'urbanisation un peu anarchique, mais aussi d'anciennes sections administratives spécialisées, donc des regroupements faits sur des montagnards du Piémont blidéen vers des villages dans la commune de Somra, Rovigo, ce qu'on appelle aujourd'hui
Bougara.
Absolument. Mais paradoxalement, c'est aussi des quartiers qui ont connu une résistance civile ou une résistance militaire armée à la radicalisation violente. Donc il y a une polarisation de la population de ces camps. Elle est divisée entre ceux qui rejoignent et ceux qui s'opposent. Généralement, ceux qui s'opposent à la radicalisation, c'est ceux qui ont connu une socialisation politique nationaliste après le regroupement. Donc ils ont un ancrage culturel, familial, historique, sociologique dans la construction et la genèse de l'État-nation algérien. Donc du coup, ils prennent fait et cause pour défendre cette partie de la modernité politique algérienne, incarnée par l'État-nation indépendant.
Je comprends que ces populations regroupées qui se sont battues pour l'indépendance de l'Algérie ont développé une conscience politique et un attachement à l'État-nation algérien. Elles ont su transmettre ces valeurs à leurs enfants et ainsi les protéger d'un basculement dans la violence armée du GIA qui voulait anéantir l'ordre politique en place.
Par ailleurs, il y a ceux qui n'ont pas eu accès à cette modernité politique. Ils n'ont pas eu de socialisation politique favorable à l'indépendance ou même à une autre forme de modernité politique. Ils sont restés cloisonnés, cloîtrés dans une forme traditionnaliste, d'un mimétisme de l'avant-déplacement, donc de cette espèce de paysannerie très repliée sur elle-même que Bourdieu décrivait dans Le Déracinement comme étant un humanisme paysan algérien détruit, mais ne pouvant pas s'émanciper parce qu'il n'a pas pu rejoindre les courants politiques algériens, et il reste enfermé dans cette espèce d'empaysannement.
Je comprends que les autres, ces paysans qui ont tout perdu, n'arrivent pas à s'adapter au nouveau monde dans lequel ils ont été projetés. Ils n'ont pas rejoint de mouvement au parti politique nationaliste et n'ont pas trouvé de place dans l'histoire. Ils se raccrochent et s'enferment dans le passé par protection et ils ne peuvent pas aider leurs enfants à s'adapter à cette nouvelle société. Ils vivent en marge et ne trouvent pas leur place, leurs enfants non plus. C'est chez eux que résonne le message du salafisme djihadiste. Et quelque part, c'est cette idéologie djihadiste devient une identité de substitution, en fait.
C'est ça. Ça devient une identité de substitution parce que le djihadisme offre deux choses. Il offre une connexion à la première communauté du prophète, donc les déplacés qui ont perdu toute connexion, toute filiation, toute mémoire de leur filiation avec leurs origines, les pères fondateurs de leur communauté, la tribu, retrouvent plusieurs générations plus tard, une souche, une filiation, certes utopique, certes complètement idéologique, c'est la première communauté fondatrice de l'islam. Ce sont les compagnons du prophète, c'est les salafs. C'est ce salaf qui les dote à nouveau d'une identité historique complètement fantasmée. Deuxième chose qu'offre le projet djihadiste, c'est une possibilité aussi de se venger d'un ennemi politique, qui est l'État moderne, pour lui substituer une entité politique fantasmée, utopique, c'est le premier califat de l'islam, qui leur redonne une existence politique.
En quittant ce chercheur, je comprends mieux les conséquences de ce déracinement en masse. La phrase de mon père me revient à l'esprit. Les regroupements, c'est le point d'attaque d'une vie brisée par la guerre qui nous a donné droit à l'errance et à l'immigration, et peut-être même au terrorisme, a-t-il ajouté. Je saisis mieux aujourd'hui l'intuition qu'il a eue et n'a pas su développer. Je décide donc d'aller dans la plaine de la Mitidja, à Bougara, une ville située à 30 km au sud d'Alger, un ancien fief du GIA. En arrivant à Bougara, je retrouve le médecin Abdallah Agoun. Nous sommes dans son cabinet médical qu'il a ouvert début 80 dans une cité de luxe baptisée Dallas. Mais aujourd'hui, elle ressemble plutôt à un quartier délabré. Lunettes de soleil, cheveux mi-longs, barbichette et jeans, il détonne en rentrant dans la salle d'attente où les femmes sont séparées des hommes et portent pour beaucoup le djellab, un voile ample de couleur sombre qui recouvre tout le corps. Il connaît bien Bougara et sa population. Et tu les connaissais, ceux qui ont rejoint le mouvement armé?
Beaucoup étaient... Mais, je connaissais pratiquement tous ceux qui étaient au GIA. Quand ils étaient tous... la majorité était... J'avais soigné pratiquement tout le monde, déjà petit. Je me suis même fait arrêter deux fois sur des faux barrages ou dans deux barrages différents. Un terroriste me dit « C'est toi qui m'as circoncis. »
Quand il ne soigne pas les paysans de cette plaine, il fait du cinéma et écrit des livres. C'est lui qui a écrit « Blouse blanche, zone grise, décennie noire » où il raconte son expérience de médecin pendant la décennie noire, dans les années 90. Pour me faire comprendre ce qu'il vivait au quotidien dans le fief du GIA, il me lit un extrait de son livre. C'était un barrage du GIA sur la route de son cabinet médical.
Il a posé le canon de son Uzi sur ma tempe en menaçant de m'exécuter si je ne le suivais pas. Calmement, je lui ai dit de tirer, que j'en avais assez. Obligé que j'étais de me rendre tous les jours dans ce triangle de la mort pour soigner des gens qui m'avaient demandé de rester pour eux. J'étais lié à mes malades par ce devoir. Et tous les jours, par ce devoir, je m'épuisais à surmonter ma peur. Rien ne me lierait jamais au GIA ni à l'armée. Qu'ils aillent faire leur barrage et leur tuerie à Hydra, au lieu de terroriser de pauvres gens.
Nous empruntons la route qu'il prenait chaque jour dans les années 90.
C'est la Mitidja là-bas, non?
Là, c'est la plaine de la Mitidja. Oh, c'est l'Atlas blidé. Hein. À l'époque, il n'y avait rien. Ici, maintenant, c'est devenu une zone tout à fait industrielle. Tout ce qu'il y a, tu vois, à ta droite, là, les usines, les dépôts, les commerces, les maisons, tout ça n'existait pas. Il y a de nouvelles villes qui se créent ici. Mais pendant les années 90, personne n'aurait voulu venir habiter ici. Que des champs, quelques vieilles maisons, quelques baraques. Juste là, il y avait des attentats, carrément.
Et à chaque fois que tu reprends la route, du coup, tu te remémores ou...
Non, j'essaie d'oublier. Non, il y a des moments, des fois, ça m'arrive. S'il y a des moments, il y a juste quelques endroits, quand je les vois, qui me rappellent réellement la décennie noire, c'est quand je vois des endroits où je prenais des enfants en stop et qui ont été tués quelques temps après. Là, oui, je revois ces gosses. Tu sais, je prenais, il m'arrivait de prendre 10 gosses avec moi dans ma voiture. Tout à l'heure, là, on est passé par l'autoroute.
Ouais.
Là, c'est l'ancienne route. Et c'est là, je t'ai dit, quand je passe par là, ça me donne effectivement, parce que c'est là où il y a eu les premiers massacres en 97, les massacres de masse. Ils en ont tué 6 là-bas, un peu plus loin, puis là, 13. Et après, ça a augmenté crescendo. Après, tu en as 33, après, tu en as 46. Et après, c'est arrivé à Bougara, où ils en ont tué 117. Et après, il y a eu le massacre de Raïs et de Bantalaha, où il y a eu... Enfin, on a dit qu'il y avait 250 et 500 morts, alors qu'il y en avait eu plus que ça.
Il n'y a pas d'hostel pour commémorer les massacres ?
Ben Bouteflika, il a dit qu'il ne fallait pas parler de la décennie noire. Il n'a pas le droit. Tu sais, il avait dit qu'il ne fallait pas les agresser, les anciens terroristes qui se sont rendus.
En 1999, une loi, dite de la Concorde civile, a amnistié des milliers de membres de groupes armés qui ont déposé les armes et se sont rendus aux autorités. Cette amnistie devait se limiter aux hommes qui n'avaient pas les mains tachées par le sang des victimes, n'ayant pas commis de viols, de massacres et d'attentats. Mais des émirs tristement célèbres pour leur violence ont aussi été graciés. En Algérie, on appelle ça la charte de réconciliation nationale. Certains accusent même l'armée d'être derrière des massacres. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la loi occulte les responsabilités et empêche tout travail de vérité sur l'histoire. Il y a quelque chose que je n'ai pas encore raconté. Mon père est parti vivre en France à la fin des années 70. Il s'est installé à Nancy, c'est là que j'ai grandi. Comble du hasard, la statue du sergent Blandan, héros de la conquête coloniale, qu'il avait vu enfant sur la route de son village à Alger, a été rapatriée à Nancy, à l'indépendance. Quand mon père s'est retrouvé nez à nez avec la statue, la mémoire de la guerre a ressurgi. Enfant, cette statue noire en acier menaçante lui faisait peur. On ne représentait pas l'humain dans sa culture. Elle lui rappelait aussi les bombardements en napalm et les soldats français qui occupaient le territoire. Quelque temps après, mon père a écrit un scénario de film, « Lettre à mes filles », qu'il n'a pas tourné et m'a offert un soir de Noël. J'ai alors découvert son histoire et celle des camps de regroupement. Cette enquête a créé en moi bien des vertiges et bien des peurs. Une nuit, j'ai fait un cauchemar. Le capitaine Grosso m'est apparu. C'est lui qui avait donné l'ordre de se venger de la mort d'un soldat français en exécutant 43 paysans regroupés à Mansoura. La population l'avait surnommé Bououkaz, l'homme au bâton, car le capitaine Grosso frappait les têtes de ceux qui ne le saluaient pas à son passage. Dans mon cauchemar, il me réveillait avec sa canne en bois et me dit « Alors comme ça, tu veux raconter la vérité ?» Il est difficile de se confronter aux terreurs enfouies de l'histoire, mais des rencontres précieuses m'ont permis de les surmonter. Je me sentais moins seule. Parmi elles, je retrouve à Oran l'écrivaine algérienne Amina Mekahli. Sur place, je suis rattrapée par le Hirak, le mouvement citoyen commencé un an plus tôt, qui se poursuit malgré l'élection contestée du président Abdelmajid Tebboune en décembre 2019. Et est-ce que tu as l'impression qu'avec le Hirak, justement, on est dans un moment où on ouvre ses secrets, on brise ses silences, on exprime
Il y a une grande ressemblance entre le Hirak et le sujet dont on parle, c'est que c'est la réappropriation du mouvement du corps dans l'espace, c'est-à-dire un mouvement en marche, marcher dans un espace de liberté déjà, dépasser la peur la peur de l'enfermement de l'Algérie, qui est un pays enfermé.
Je ne connais pas les chants du Hirak. J'entends la Casa del Moradia, repris en chœur dans les manifestations. La Casa del Moradia, c'est le palais présidentiel, résidence de tous les présidents, de Ben Bella à Bouteflika. Ce chant des supporters de foot d'un club algérois est devenu l'hymne du Hirak. Les manifestants réclament la fin du système et le départ de ses représentants, en premier lieu Bouteflika, au pouvoir depuis 20 ans. Très malade, cela faisait 5 ans déjà qu'on ne le voyait pas et qu'on ne l'entendait pas. Et pourtant, il était candidat à un 5e mandat. C'est ce qui a déclenché le Hirak. Un des autres enjeux qui apparaît dans les manifestations est de connaître l'histoire. C'est aussi ce que l'on entend dans les chants repris en chœur. Il y en a marre de ce pouvoir. Nous, on connaît l'histoire. L'État algérien a passé sous silence des pans entiers de la guerre d'Algérie pour construire une histoire glorifiée de la Révolution, avec un peuple uni derrière le FLN. Au point que la jeunesse se sente perdue aujourd'hui et soit comme moi dans une quête de vérité historique. Je reprends la route direction Alger à 4 heures de train d'Oran. À l'université où je projette mon film, je rencontre Marwa, jeune doctorante en architecture d'une vingtaine d'années. Manifestante assidue, elle souhaite que le Hirak soit l'occasion de revisiter l'histoire de l'Algérie, que sa génération connaît mal.
On essaie de s'accrocher à ce qui a été laissé après l'indépendance, mais malheureusement, on voit la période post-indépendance, il y a quand même cette continuité, c'est de la procédure d'effacement, et donc on est perdu, on n'a pas de repères. C'est important quand même de connaître notre histoire pour la construction d'une nouvelle Algérie, d'une nouvelle République.
Ce malaise vis-à-vis de l'histoire officielle me ramenait à la colère que m'avait confiée à Paris le journaliste et écrivain Slimane Zeridour.
Je ne me suis jamais reconnu dans le récit, le narratif du régime de la guerre d'indépendance. Je ne voyais d'hommage, d'intérêt que pour les combattants armés. Seuls eux ont droit à des statues, des hommages, des séminaires de réécriture de l'histoire où on n'en voit que d'anciens maquisards qui viennent raconter leurs accrochages. Comme si la guerre d'Algérie n'était qu'une suite d'escarmouches entre gens en uniforme. Il n'y a jamais eu de récit sur les veuves, sur les villages brûlés, les troupeaux perdus, les gens traumatisés, les orphelins, les viols, les camps de regroupement. Jusqu'à maintenant, le camp reste un tabou en Algérie.
À Alger, où se tient chaque vendredi la grande manifestation hebdomadaire, je retrouve Abdallah, le médecin que j'ai vu à Bougara. Je vois en chacun, jeunes ou vieux, hommes et femmes, toutes tendances politiques confondues, des porteurs de mémoire. Abdallah a vécu la guerre d'Algérie, vu son frère torturé, son père militant du FLN tué, et sa famille contrainte de quitter son village devenu zone interdite. Il a échappé aux attentats de la décennie noire, dans les années 90, une période qui fait aussi l'objet d'une réécriture officielle. Abdallah m'accompagne. On peut craindre les arrestations. Il y en a eu des centaines depuis le début du Hirak. Elles ont lieu surtout le matin et le soir, quand la foule est moins dense, me confie une jeune activiste.
Et donc maintenant, les gens se réapproprient la révolution qui a été confisquée, tout le monde sait. En 62, elle a été confisquée par le clan d'Oujda et qui n'a pas été enseignée l'histoire de la révolution algérienne. Personne n'a entendu parler des vrais révolutionnaires. Et maintenant, tu vois, c'est la réappropriation de l'histoire de la révolution algérienne par le peuple. Ils se l'approprient maintenant.
Abdallah parle du clan d'Oujda. Ce groupe d'officiers du FLN repliés au Maroc pendant la guerre d'Algérie. Avec le coup d'État de Boumédienne en 1965, c'est le clan Doujda, dont Bouteflika fait partie, qui l'a emporté définitivement.
Et quand tu entends ce slogan « Doula Madania Macha Askaria », république civile, pas militaire, c'est aussi parce que Abban Ramdan disait « primauté du civil sur le militaire ».
Là, Abdallah parle de la figure révolutionnaire d'Abban Ramdan, assassiné par des rivaux du FLN pendant la guerre. Abban Ramdan est une personnalité importante de la révolution. Il était le principal animateur du congrès de la Soumam en 1956, qui avait jeté les bases de l'État algérien, un État démocratique, multiconfessionnel, qui consacrait la primauté du pouvoir civil sur le militaire. Et c'est le clan Doujda qui a scellé le destin politique de l'Algérie. L'armée occupe toujours une place centrale dans les décisions politiques. Ce slogan me ramenait à ma discussion à Paris avec l'historien Benjamin Stora. Il se montrait prudent sur l'héroïsation de l'histoire. Abban Ramdan n'était pas non plus un saint. Il avait menacé d'éliminer les messalistes, partisans de Messali Hadj, père du nationalisme algérien et rival du FLN.
La question, c'est qu'il ne faut pas, comment dirais-je, rejeter toute l'histoire. C'est-à-dire qu'il faut la prendre telle qu'elle est, avec ses souffrances, avec ses problèmes, etc. Il faut la prendre telle qu'elle est, l'histoire. Il faut l'accepter telle qu'elle est. Sinon, on reconstruit des récits imaginaires, on reconstruit des trucs de mythes, de mythologisation, etc. Mais c'est très difficile pour l'Algérie. C'est très difficile parce qu'elle a été tellement dépossédée de son histoire qu'elle a besoin d'avoir une histoire mythologisée. C'est ça la difficulté. Elle a besoin d'avoir des mythes, des héros, des fondateurs, etc. Par exemple, l'Algérie, ils ont dit, bon, on a l'indépendance, bon, c'est fini, le temps colonial s'est réglé, on fait le socialisme. Non. C'est pas réglé du tout, le temps colonial. Pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Pas du tout. On ne peut pas jeter par-dessus bord. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais eux, ils ont dit non. Maintenant, je les comprends, parce qu'il fallait avancer. On ne pouvait pas rester comme ça. Il fallait avancer. Il fallait dire, bon, bah, on avance, il faut l'homme nouveau, l'État, la nation, etc., etc. Mais ça s'est fait au prix de l'économie, disons, d'un travail réel sur leur histoire passée.
Dans la manifestation, je cherche des slogans en lien avec les camps de regroupement. Je me sens seule à porter cette mémoire. Je pose la question à Karima Lazali, psychanalyste, auteur du livre Le trauma colonial.
Mais d'ailleurs, l'histoire des regroupements n'apparaît pas du tout dans les manifestations. Enfin,
ben si, l'histoire des regroupements, elle est au cœur des manifestations, dans le sens où vous voyez bien, c'est visible. C'est-à-dire qu'à l'inverse de l'immobilisation et de l'enfermement d'une population, nous vivons l'inverse. C'est-à-dire ce qu'il y a lieu d'avoir en tête, c'est que la mémoire n'est pas forcément dans ce qui se dit. La mémoire, elle est aussi logée dans les corps. Et qu'on voit bien que ce qui se passe, c'est absolument pas conscient, mais le rapport au corps qui est en train de s'écrire par le Hirak est un rapport à une autre écriture de cette histoire des camps, puisque là où les individus ont été parqués, immobilisés, mis sous contrôle, arrêtés dans leur mouvement durant les camps de regroupement, le Hirak fait exactement l'inverse. Il laisse se déployer d'une façon tout à fait spontanée et créative, c'est ça aussi qui est très très beau dans le Hirak, tous ces corps dans l'espace public. Il s'agit de dire non à l'arrêt, non à l'immobilisation d'une population entière par le politique.
Il vaut mieux bouger.
Ouais, vas-y, on va bouger, ouais. Non, mais c'est vrai que tu sens qu'il y a plein de flics en civil.
Non, non, il y en a plein.
Ouais.
C'est pour ça que j'ai voulu partir de la base, parce qu'ils regardaient avec trop d'insistance. Et en même temps, je voulais voir s'ils nous suivaient. Tu sais, avec la décennie noire, j'ai appris à faire attention à tout, à tout le monde, à regarder les gens, à voir ce qu'ils peuvent représenter. Ça me rappelle les anciens révolutionnaires, ceux qui ont combattu la France. Quand ils vont s'asseoir à un café ou dans un restaurant, ils ne donnent jamais le dos à la porte. Ils sont toujours face à la porte.
Ah ouais?
Tout le temps. Voilà. Et tu sais, ce qui est extraordinaire, c'est qu'une fois, j'ai rencontré des jeunes ici, au début du Hirak, et qui disaient, grâce au Hirak, on a appris notre histoire. Il y en avait qui ne savaient même pas qui c'était Ali Lapointe, qui était à Ben Ramdan, et maintenant, tout le monde connaît. Et Audin, tu te rends compte, le rassemblement devant la place Audin, tout le monde se demandait ce que faisait ce nom français-là. Et maintenant, on sait que maintenant, qu'Audin, c'est quelqu'un qui a milité pour l'indépendance de l'Algérie.
Abdallah parle de Maurice Audin, militant communiste disparu en 1957 en Algérie et mort sous la torture de l'armée française. Je me retrouve dans cette génération en quête de mémoire et de vérité historique. Mais je me sens par moments en décalage. Je n'ai pas vécu les années Bouteflika. Je n'ai pas été traversée par l'histoire récente de l'Algérie. Je marche et je porte la mémoire de mon père. Une mémoire que cette série m'a permis de raconter et de dépasser. Maintenant que je la connais, je peux sortir du camp et continuer ma route. L'Algérie des camps, une enquête de Dorothée Myriam Kellou, réalisée par Thomas Duterre. Mixage, Sylvain Latu.
جيتك كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية حكي يا راوي كيما حكى ولك ما تزيد ما تنقص من عندك كالي شفا ولا بلاك حكي ونسينا مهاد زمان خلينا في كان يا ما كان في كان يا ما كان حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك ما جيتك كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكايه